partager les panélistes en deux, mais nous n'avons pas pu faire cela. Donc, ils sont là tous alignés. On va tous discuter cela. Je suis David. Et je suis David Olive, je suis vice-président du soutien au développement des politiques à ICANN et je voudrais présenter le panel. Nous avons Bruce Tompkins qui fera la modération. Nous aurons une présentation de Marika Connings, notre directeur des politiques. Nous allons aussi discuter des versions préliminaires que nous avons et donc du concept de cela, et nous ouvrirons à la discussion ensuite. De façon à attirer l'intérêt sur la session, je l'ai titré politique par rapport aux applications de ces politiques. C'est donc le thème de la session. Les règlements sont bien délimités à ICANN, mais les processus et les procédures ne sont pas aussi clairs peut-être. Donc, beaucoup d'entre nous pensent qu'il n'y aurait pas facile d'avoir une ligne à l'éclair en ce qui concerne les politiques ou leurs applications. Par rapport à leur application, il y a donc aura des activités pour voir quels sont les rôles des parties prenantes dans ce processus. Et c'est pour cela que nous avons un groupe extraordinaire de gens qui pourront commenter là-dessus. Nous avons Dan Blumenthal du comité de sécurité, M. Lebovich de GAC, de At-Large, pardon, Chuck Gomes de GNSO, Avery Doria des groupes non commerciaux, et nous aurons Steve DiBianco du groupe Business, GNSO, Graham Winterfell du GNSO, de propriété intellectuelle, James Ladin de partie prenante des registraires GNSO et aussi Aparna Sridhar de Google. Nous avons donc aussi d'autres organisations qui seront là pour nous aider à en discuter. Nous aurons donc des vues croisées, des opinions croisées. Je vais donc passer le micro au directeur, à notre. La personne en charge sur la table, le directeur, pardon, président du comité. Je vais commencer, Bruce Tompkins, merci David. Je veux commencer un peu basé sur la conversation que nous avons eue hier. Quel est donc le rôle des politiques à ICANN? Il y a trois organisations de support à ICANN responsables pour les politiques. L'organisation de services des adresses, l'organisation des codes de pays et le GNSO. Le GNSO développe et recommande des politiques pour les domaines de premier niveau. ICANN aussi a des approches multiples lorsqu'il s'agit des problèmes sur les politiques et de révision sur les politiques et de créer des propositions et de donner des conseils sur les politiques. Nous avons un community conseil, ALAC, SSAC, GAC, je sais que vous connaissez certainement tous ces acronymes, RSAC. Nous avons une équipe de révision des politiques qui fait partie de ce processus, donc qui est revue. Qui fait cela de façon régulière. Nous avons d'autres groupes qui se forment aussi. Nous avons les applications, l'équipe des applications et de recommandations et pour la protection des droits, par exemple, pour les GTLD. Nous avons juste formé un nouveau groupe pour le service d'annuaire GTLD, un groupe d'experts. Chacun de ces groupes produit un rapport et cela doit être approuvé par le board et mis en œuvre. Il y a toujours une tension quand le board se trouve en face et à demander des conseils au GNSO. Il y a des périodes de commentaires sur ces rapports et il y a ainsi ils ont mis en place un processus de multipartite et ainsi on peut voir ce qu'ils disent chacun sur les politiques mises en place, présentées. Nous avons des groupes qui identifient les problèmes d'application, qui font des révisions sur ces applications. Nous avons des groupes qui créent des politiques et des propositions. Et Donc, c'est un peu le même nombre de membres qu'avant. Il y a quand même quelques nombres additionnels. Nous avons des équipes pour les fast-track, dans les voies rapides. Nous avons des équipes de parties prenantes, des équipes qui sont rassemblées pour créer un clearinghouse de marques déposées Strawman. Nous avons aussi le clearinghouse de marques déposées, la liste de courriers pour le clearinghouse. Nous avons donc aussi une équipe de personnel et nous avons beaucoup de consultants externes. Donc, vous voyez, nous devenons de plus en plus compliqués en ce qui s'agit des applications des politiques. Quelles sont les tensions, donc? Qui est responsable pour prendre ces décisions? Qui signe ces décisions? Le processus le plus rapide, c'est que le personnel regarde ses politiques et fait une proposition d'application et reçoit des commentaires. Si c'est un élément de substance, cela va vers le board pour être approuvé. Donc, par exemple, en termes simples, la protection du nom de la Croix-Rouge était une décision de premier niveau. Donc, ceci est un exemple d'une application qui s'est passée en quelques semaines. Il y a aussi des applications qui sont plus lentes. Il y a des groupes qui suivent les problèmes et ensuite tout cela passe par le personnel. À chaque fois que nous faisons des ajustements de ces politiques, les ajustements de ces applications passe à travers le processus en entier de GNSO. C'est un peu extrême. Rien n'est mis en place sans passer à travers tout ce processus. Et ensuite, il y a des actions qui sont prises entre ces deux scénarios. Donc, cette tension que nous commençons à noter, c'est que le GNSO veut être consulté en ce qui concerne les applications des politiques. Ces politiques doivent passer peut-être par le GNSO et avant qu'elles soient appliquées. Donc, il y a un débat là-dessus. Il y a aussi un débat. Je vais vous montrer ma diapositive. Les différentes clés, quand je regarde les politiques, la perception que si quelque chose doit passer devant le GNSO, cela prendra beaucoup de temps. Donc, cela crée de la tension. Il y a des rapports qui sont faits durant des périodes de longs mois, quelques mois, et cela doit être approuvé par le board. Et ensuite, le board nous dit que, bon, c'est bon, le board pense, oui, nous pensons que c'est une politique, et cela va donc aller vers le GNSO, et la perception que ça pourrait prendre des années. Vous savez, il y a aussi une perception qu'il y a bias. Je pense qu'il y a des différences d'opinion entre les GNSO, qu'il y a des opinions différentes entre tous les groupes. Je ne vais pas, par exemple, je ne vais pas faire passer cette politique devant le GNSO parce que je n'aurai pas les résultats que je recherche. Donc, ils ne vont pas être d'accord avec moi. Et je ne veux pas perdre le vote. Donc, c'est comme ça, on se dit, on va pousser les choses de côté. On dit, on ne va pas aller vers le GNSO. Et nous, on va utiliser un autre processus. Donc, dans la discussion maintenant, nous savons que nous devons clarifier le processus en ce qui s'agit des politiques et de leur application. Ce ne sont pas des choses différentes, en fait, ce sont similaires, ce sont deux choses similaires. Nous devons travailler sur toutes les politiques de haut niveau et sur tous les détails. Et nous devons inclure tous les groupes différents dans le processus. Nous devons équilibrer la vitesse de l'application, par exemple. C'est aussi une source de tension. Les intérêts business au lancement des nouveaux GTLD, c'était quelque chose qui devait être fait. Ils voulaient que ce soit fait rapidement. Et puis, il y a d'autres groupes qui veulent être consultés avant que les décisions soient prises. Ce que nous faisons lorsqu'il y a différence d'opinion quand il s'agit d'application des politiques, ça c'est souvent chez ICANN. On doit être raisonnable, on doit regarder les droits juridiques des autres, et aussi quand il s'agit de l'application, il y a toujours beaucoup de désaccords de la manière à laquelle ça doit être fait. Je vais passer la parole à Marika pour qu'elle nous parle de ce que le personnel pense de ce sujet. Bonjour tout le monde, je suis Marika Konings, je suis senior officier à ICANN, directeur de politique à ICANN, et je suis dans l'équipe de leader pour le GNSO. Aujourd'hui, nous allons faire les choses assez rapidement parce que nous voulons entendre le panel, veut entendre parler de vos opinions. Nous avons un papier que nous avons mis en place pour démarrer cette discussion. Ça a été basé à toutes les discussions qui se sont passées sur ce sujet dans la communauté. Ça a été inspiré sur toutes les discussions des nouveaux GTLD. Nous voulons mettre la concentration que l'objectif du papier était un papier. On voulait aller de l'avant. Ce n'est pas les corrections, discussions, ce qui s'est passé auparavant. Nous voulons avoir une approche à long terme pour faire face à tous ces problèmes. Comme nous l'avons vu, il y a des variations dans les PDP, des processus, il y a des descriptions détaillées sur comment les choses doivent être faites, qui doit être consulté. Il y a aussi donc de ce côté moins de guidance. Il y a des approches qui ont été prises, des approches différentes qui ont été prises dans le passé. Ce n'est pas toujours clair ou transparent pour la communauté pour voir à quoi ils doivent s'attendre. Il y a des rôles, des groupes différents qui sont utilisés dans le processus. Encore une fois, le papier que nous avons mis en place avec le personnel, ce n'est pas pour créer une ligne entre les politiques et leur application. C'est une tâche trop difficile. Ce qu'on a voulu faire, c'est de clarifier les processus et d'avoir une meilleure prédiction des discussions à venir pour que tout le monde sache un peu quelles sont les différentes étapes du processus. Le papier lui-même, le document lui-même, on a essayé de souligner un peu l'ampleur, un ordre de travail pour voir comment nous allons faire face à cette discussion. Vous verrez aussi là-dessus un grand nombre de représentants du GNSO et les exemples qui ont été utilisés viennent du GNSO. Est-ce que nous avons assez de travail pour montrer ce que l'on fait d'autres parties de la communauté? Et une des questions que vous verrez, c'est qui vient du panel. Comment est-ce que nous pouvons faire face à ça? Est-ce qu'on peut avoir un ordre de travail ou différents ordres de travail et que ces ordres de travail soient adaptés à différents processus de politique? On pourrait avoir... On veut identifier où nous croyons qu'il y a des discussions futures à avoir ou où cela pourrait nous aider. Il faut identifier des principes, des critères. Il y a des principes qui peuvent abaisser la discussion. Ce papier, donc ce document, peut nous aider pour démarrer et nous mettre sur la bonne voie. Nous avons aussi identifié beaucoup de questions, des questions que vous allez entendre aujourd'hui durant la discussion du panel. Nous avons aussi inclus d'autres termes avec des suggestions d'amélioration, des demandes pour les organisations de soutien pour voir comment ils pourraient nous soutenir avec des conseils quand cela est demandé par le board et aussi comment le board demande des conseils et dans quel délai. Peut-être le personnel peut inclure une rationnelle pour suggérer un guide de mise en place d'application. Tout cela est donc sur la table pour qu'il y ait plus de discussions. Il faut aussi que nous arrivions à une étape où nous aurons des processus très clairs mis en place et de la transparence pour voir comment le processus des politiques alors qu'ils vont vers leur mise en œuvre. Il y a différentes... si on regarde, par exemple, le GNSO, il y a des PDP qui ont été prescrits sur comment les politiques doivent être écrites. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons l'application de Par exemple, avec le nouveau GTLD, nous avions des problèmes de principe. Nous avions laissé beaucoup de place pour l'interprétation... pour qu'il y ait... Il y avait beaucoup d'idées pour savoir comment nous allions rencontrer ces principes. Donc, je ne vais pas passer à travers tout ça, mais on a essayé quand même de souligner les numéros, les étapes numéroses du processus. Nous avons vu dans le guide des nouveaux GTLD, il y avait un processus qui avait été publié pour savoir comment on allait procéder à travers toutes les étapes. Nous avons mis plus de détails dans ce document et nous avons souligné aussi les carences où il y a des processus qui sont mis en place mais qui ne sont pas très clairs, qui sont encore ouverts à la discussion, qui ont peut-être besoin de clarifier, de rendre les choses plus transparentes, plus crédibles pour que les gens savent exactement à quoi s'attendre quand il s'agit des politiques et de leur application. Donc, alors que nous reconnaissons que c'est un sujet pour la communauté, pour qu'elle soit discutée, que ceci a été reconnu par Fadi. D'ailleurs, nous avons mis ce papier en ligne pour un PDP. Nous avons besoin de suivi de la communauté. Nous pensons que c'était un bon point de départ. J'espère qu'on n'a rien manqué, mais il faut qu'on sache quelle est la prochaine étape dans ce concept. Nous avons déjà reçu beaucoup de suivi, beaucoup d'informations. Nous avons eu 10 personnes qui nous ont envoyé des informations. Donc, nous avons vu que c'était un sujet qui était très haut dans l'agenda des contributeurs. Cela, il y a quand même des intérêts d'autres personnes dans la communauté, pas seulement de GNSO, surtout sur les même si les SO, les SA n'ont pas eu l'occasion de participer. Donc, ils ont quand même indiqué qu'ils sont intéressés à continuer et à être inclus dans une discussion future. Donc, les gens ont bien reçu ce papier, ils ont reconnu l'importance de ce sujet et ils étaient d'accord de savoir que lors de le but, c'était de regarder de l'avant. Ces discussions sont donc récentes. Les sujets qui ont été impliqués dans les applications politiques ont servi d'études de cas et ont été utilisés comme principe de guide. Donc, moi, je vois vraiment, je veux voir en avant, je veux voir que le processus soit prédictible et que les règlements soient clarifiés pour toutes les parties prenantes. Il faut que le système soit juste. Et aussi, c'est les informations dont on a reçu, c'est surtout sur le fait que le processus doit être juste. Nous ne devons pas seulement regarder les applications des politiques, mais nous devons regarder aussi le développement des politiques. Comment pouvons-nous nous assurer qu'il y a assez de détails inclus dans ce processus qui pourraient aider la facilité de l'application de cette politique? S'il y a des questions spécifiques qui ne sont pas dans le processus de développement, il faut identifier ces détails dans le débat de développement de la politique. Comment les choses doivent être faites? Et ça doit faire partie de la discussion sur l'application des politiques. Le mécanisme existant, on en a parlé, Bruce en a parlé de ce qui a été utilisé dans le passé. Est-ce qu'on peut s'en servir d'exemple ou est-ce qu'on peut regarder les pratiques actuelles que nous utilisons? Peut-être y a-t-il des modèles différents d'application qu'on pourrait utiliser? Nous avons des discussions là-dessus. Il y a des éléments négatifs et positifs. Peut-être qu'on pourrait regarder cela et voir s'il y a si on peut utiliser donc ces pratiques. Mais en général, l'intérêt général du panel et de tous entre vous, nous avons vu qu'il y a un support pour continuer ce dialogue et nous attendons vraiment vos suggestions pour voir comment nous pouvons aller de l'avant et amener cela à une autre étape et d'avoir quelque chose de concret pour pouvoir une solution commune. Et je pense que c'est tout de ma part.
Thank you, Marika.
Merci beaucoup, Marika, de cette intervention. Dit Bruce Tankin. Donc, je pense que maintenant, nous avons plusieurs questions. Nous allons passer en revue ces questions. Donc, quelle est votre perspective, c'est une question, sur la principale priorité par rapport au débat entre politique et exécution? Question numéro 2, est-ce que vous pensez qu'un cadre pourrait être créé pour toutes les activités de mise en œuvre des politiques dans le sein de l'ICANN? Question numéro 3. Cela a trait au non-consensus. Lorsqu'on n'atteint pas un consensus de la part des différents SO et AC, commission de soutien, est-ce que des mécanismes supplémentaires doivent être développés qui forceraient donc l'engagement en cause communautaire et la prise de décision? Ou devrions-nous trouver d'autres possibilités? Question numéro 4, est-ce qu'il doit y avoir un groupe de travail cross-communautaire? Que pensez-vous de cette approche? il y a certains éléments qui nécessiteraient une approche cross-communautaire, tandis que d'autres seraient adressés au sein des SO respectifs. Voilà, c'est toutes les questions. Et nous allons passer de la droite à la gauche, et je vais donner maintenant la parole à Steve Del Bianco. Tout d'abord, en ce qui concerne les priorités. Il faut lire le document si vous ne l'avez pas encore. Je parle de la question 1, quelle est la perspective de votre... D'après la perspective de votre communauté, la priorité principale en ce qui concerne la discussion sur la politique par rapport à sa mise en œuvre. Donc, quel est le cadre qui va travailler pour le long terme, qui va fonctionner pour le long terme? Qu'est-ce qui est utile? Et numéro 3, est-ce que nous pouvons trouver une différence entre la politique et son exécution ou application? Donc, il y a une différence très ténue entre les deux. Donc, est-ce que nous avons de nouvelles obligations en ce qui concerne les parties contractantes? Est-ce que ce sont des obligations matérielles sur les membres de communauté? Cela inclut les bureaux d'enregistrement, forces de l'ordre, ISP et autorités de certificats et fabricants de navigateurs également, qui pourraient être impactés d'une manière ou d'une autre, de manière matérielle. Nous avons utilisé nos tests de nouvelles obligations avec de nouveaux exemples. C'est la solution qu'on appelle Strawman. Et cela n'a pas été prédéterminé, mais nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas de nouvelles obligations. Et donc, nous pensions que cela satisfaisait la mise en œuvre. Alors, la valeur de nouveau cadre sera jugée non pas par sa prédictabilité, non pas par et par ses résultats dans des cas véritables. Donc, est-ce que nous obtenir de véritables résultats avec ce cadre? Donc, nous allons manger notre plat et nous espérons qu'il sera délicieux. Nous devons donc avoir une très bonne recette. Oui, tout d'abord, j'aimerais dire qu'une des principales perspectives que nous avons, c'est que le passé, c'est le passé, et que nous devons envisager l'avenir. Maintenant, ça veut dire gérer les problèmes que le passé nous a remis. Donc, ma communauté n'est pas toujours à l'aise par des solutions qui diraient que tout ce qui s'est passé de par le passé était injuste et que, juste ou injuste, cela nous inquiète un petit peu, donc on doit se concentrer sur l'avenir. Et il me semble que de nombreuses manières, lorsque l'on prend en compte les problèmes, eh bien, les politiques très souvent arrivent au niveau de l'interprétation. Lorsqu'on les applique, on doit les interpréter, ces politiques. Il y a donc un élément d'application très fort, par exemple, dans le processus pour les nouveaux GTLD. Nous avons des notions de politique, nous avons des recommandations, nous avons des membres de personnel qui nous ont dit « Écoutez, si c'est ça la politique, comment est-ce que l'on va l'appliquer ?» Il y a des problèmes avec l'application et la mise en œuvre de cette politique. Donc, on a tourné en rond. Et finalement, le temps s'écoulant, la différence entre la politique et son application devient de plus en plus forte. C'est un exercice. Mais en fin de compte, la politique existe toujours dans toutes les décisions qui sont mises en œuvre, même si c'est un tout petit problème d'application. Donc, est-ce que nous avons des inquiétudes au niveau des politiques, au niveau de leur application possible? Nous devons constamment nous poser cette question. Beaucoup de personnes qui s'occupent de la mise en œuvre de ces politiques eh bien, se posent ces questions. Il y a un point de vue sur les politiques. Est-ce que l'application d'une politique modifie cette politique? Nous avons un PDP assez nouveau, bien que le processus existe depuis de nombreuses années, et il y a une équipe qui doit être construite à la fin de chaque processus de développement de politique, une équipe justement d'application, qui travaille aussi à l'interprétation de la politique. Donc, la dernière chose que j'aimerais ajouter, et c'est quelque chose qui vient du côté CNG, j'ai lu plusieurs fois le document, on définit très bien d'ailleurs un terme, c'est un très bon document, mais il y a un aspect de définition. Par exemple, qu'est-ce qui est substantif, qu'est-ce qui est matériel? C'est quelque chose qui met beaucoup de pression sur différentes libertés, comme la liberté d'expression ou d'association. Ce sont des applications fortes. Par exemple, les droits d'autrui, c'est la liberté d'expression, liberté d'association. Moi, je ne parle pas de la liberté de la propriété. Donc, le matériel, ça ne c'est pas seulement l'argent. Ça va beaucoup plus loin que cela. Il y a l'aspect de véritable liberté qui est pris en compte dans toutes ces décisions, dans toutes ces applications. On a parlé, par exemple, d'un bureau central de marques déposées. Eh bien, ça, c'est un impact fort sur les parties prenantes qui, justement, font des politiques. Ils vont être impactés. Et ça, on doit le prendre en compte. Les parties prenantes qui font les politiques sont affectées. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais maintenant, merci à Avril, nous allons passer la parole à Chuck Gomes. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus ce matin. Nous, notre priorité, la plus haute, c'est d'éliminer l'assumption, la supposition que si un problème de mise en œuvre, eh bien, l'organisation de soutien qui a développé la politique ne doit pas se charger de cela. Moi, je l'ai entendu plusieurs fois cette semaine, au GNSO et avec d'autres associations, que l'on suppose que s'il y a un problème d'application, de mise en œuvre, il ne faut pas faire participer l'association de support qui a défini la politique. Ça ne me convient pas, c'est totalement faux, ça ne convient pas. Nous avons donc une question qui a été posée. Nous avons cet exemple de l'homme de paille, du système homme de paille. Et on avait pensé qu'on n'avait pas besoin de consulter les organisations de soutien. Nous avons une responsabilité que d'assurer la mise en place des politiques telles que les recommandations ont été approuvées dans le modèle ascendant que nous avons à la CAN. Et ces politiques sont vraiment à la base et au cœur de notre modèle multipartite. Merci beaucoup, Chuck. Oui, merci beaucoup. Don, à la parole. Vous avez la parole. Et je crois que, comme vous le savez, nous avons fait plusieurs commentaires, ne l'avons pas fait. Don Blumenthal s'exprime. Il faut prendre en compte la mise en œuvre de ces politiques. Et il y a certains groupes qui ne se posent pas trop la question. Ils ne pensent pas que ce soit un problème. Et nous qui faisons un véritable travail au niveau des registres, par exemple, pour ma part, eh bien, on sait que c'est difficile. Donc, ceci dit, l'approche principale de l'ESSAX, du SSAC, serait un petit peu différente de ce que l'on a entendu auparavant. Et je suggérais quelque chose assez similaire à ce qu'a dit Chuck. Je ne suis pas sûr qu'il soit réaliste d'avoir une ligne de démarcation entre ces deux points, entre ces politiques et leur application. Donc, on ne peut pas se permettre de se retrouver enlisé à ce niveau. Il faut trouver un moyen d'arriver à des décisions qui soient efficaces, qui soient valides. Donc, trouver une autre manière, peut-être une autre voie. Merci beaucoup, Don. Nous allons donner la parole maintenant à Ivan Lebovitch. Oui, comme le SAC, l'AC n'a pas ses limites pour travailler avec les politiques et leur application. Donc néanmoins, nous avons remarqué qu'il y a des problèmes à ce niveau que nous devons régler. Et ce devrait être assez simple. Les politiques, c'est ce que vous allez faire et l'application, c'est ce que vous allez faire. Et si vous avez un bon principe de base comme cela, eh bien, on devrait pouvoir anticiper ce qui nous attend et une bonne mise en œuvre doit prendre en compte l'intention des personnes qui ont fondé ces politiques. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a un membre de l'ALAC qui m'a parlé ce matin et qui m'a dit « Si vous aimez ce qui se passe, ça, c'est de l'application. Et si vous n'aimez pas cela, c'est de la politique. » Donc, c'est un concept un petit peu absurde, je pense, mais on a besoin d'initiatives de ce type pour justement mieux définir les différences et les similarités entre politiques. La parole maintenant est à Brian Winterfeld de l'UPC. Nous, nous voulons penser également à l'avenir. Nous avons besoin d'un bon cadre pour améliorer le processus pour toutes ces mises en œuvre d'applications. Moi, je crois qu'on a appris beaucoup par le passé. On a eu beaucoup d'expériences valides. Et comme Marika l'a dit, j'aimerais encourager tout le monde à lire le document qui a été conçu et qui est très intéressant, qui rentre et qui creuse bien les problèmes et les questions. Et nous voulons véritablement améliorer la situation. Ce qu'on a entendu de la part du panel ce matin, de la part de Chuck, par exemple, ces concepts de mise en œuvre sans véritablement revenir à l'association de soutien, l'organisation de soutien qui l'a conçue, eh bien, en effet, ça, c'est un problème. On doit réfléchir dans les communautés, on doit consulter beaucoup plus sur ce que l'on fait de la mise en œuvre, avoir des cadres qui équilibrent bien les besoins différents qui existent pour toutes les parties prenantes qui doivent être consultées. Oui, nous allons donner la parole à James Bladel. Oui, il y a eu de très bonnes idées que nous avons entendues ce matin. Je n'ai plus grand-chose à dire, donc pour les bureaux d'enregistrement, ils comptent également. Et notre première réponse, comme l'a dit Evan, c'est que les politiques, c'est ce que vous voulez et la mise en œuvre, c'est ce que vous aimeriez, d'un autre côté, obtenir. Donc, c'est ce type de définition. Mais je crois qu'on a besoin de lignes de conduite, justement, comme le disait Steve, il y a des parties prenantes et des utilisateurs et d'autres membres de cette communauté qui sont impactés par ce qui se passe à ces réunions et qui ne sont pas présents dans ces salles, ni à ces réunions de l'IACAN. Alors, on a besoin de débattre de politique. Donc, lorsqu'on parle d'un secteur, de quelque chose de plus interne à un secteur, d'outils pour les registres et ainsi de suite, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment de la mise en œuvre plus technique, mise en application véritablement, au sens propre du terme. Bâtir un site web, une entreprise, une communauté, sans avoir été une de ces réunions à Cannes. Donc vous êtes en fait bénéficiaire de ces politiques mises en place si vous ne venez pas à Réunion ICANN. Et Steve, j'ai beaucoup... vous avez parlé des obligations matérielles ou substantielles, c'est comme ça que vous l'avez dit, je crois. Eh bien oui, oui, oui. Il faut y penser, il faut réfléchir, il faut garder cela à l'esprit. J'aimerais souligner également que on ne doit pas trouver une solution totalement globale, oui. Et il y a plusieurs PDP, il y a des équipes qui ont des équipes très agiles, qui ont des outils très agiles pour parler aux personnes qui ont conçu ces politiques. Et vous avez aussi le personnel qui fait un travail qui doit permettre à tous de communiquer. Il y a beaucoup de recommandations pour le PDP. Ça fonctionne relativement bien, me semble-t-il, pour les problèmes qui ne portent pas à controverse. Merci. Donc, merci. Nous allons maintenant passer la parole du Bruce Tonking à Madame. Oui. J'aimerais parler au nom de Google. C'est une communauté, plus ou moins. Il me semble que l'inquiétude clé que nous pourrions avoir de la part de Google et que dont nous avons parlé avec nos collègues, c'est que ce soit une politique ou sa mise en place, il faut que ça soit prévisible, il faut que ça soit stable, il faut qu'on soit averti en temps utile, en temps et en heure, si on a des obligations. En tant que juriste, je passe beaucoup de temps à travailler au niveau administratif avec des agences et au niveau interne, on a parlé de nouvelles règles, nouvelles obligations pour certaines parties. Nous devons le savoir le tôt, être averti tôt, avoir assez de temps pour travailler et de moyens pour communiquer, assez de temps pour que toutes les parties prenantes reçoivent notification, expliquent leurs inquiétudes, suggèrent des alternatives. Et ce que nous aimerions également obtenir à la fin du processus, c'est des explications sur les décisions qui sont prises, sur la prise de décision. Dans un document, vous pouvez dire nous apprécions cette proposition de Google, mais ça ne peut pas être appliqué pour telle et telle raison. Donc, vous n'avez pas à communiquer avec toutes les parties prenantes, mais les grandes idées qui doivent être acceptées ou rejetées doivent être expliquées. Donc, il me semble que ce processus doit s'appliquer, quel que soit le nom que vous lui donnez. Il me semble qu'on met l'accent sur des problèmes bien précis parfois. C'est important pour nous, pour avancer, mais ce n'est pas nécessairement toujours utile. Je crois qu'on doit avoir un système prévisible et on dit parfois, oui, c'est impossible d'avoir une ligne de démarcation très forte entre les deux. Alors j'aimerais dire, attention, nous pouvons faire mieux. On peut voir dans d'autres contextes des personnes relever ces défis. Par exemple, en loi administrative. Donc, c'est vrai que c'est parfois un petit peu vague, mais il y a l'interprétation des lois, par exemple. Une loi est votée puis interprétée lorsqu'elle est mise en œuvre. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait tenter de faire dans notre domaine également, quel que soit le terme que l'on donne, politique, ligne de conduite ou quoi que ce soit.
Prochaine question, dit Bruce Tonking, merci. Aparna, merci Aparna. Nous allons commencer dans l'ordre suivant. Je demande aux intervenants d'être brefs parce qu'on a peut-être déjà couvert certains compte tenu des questions suivies. Si on veut ajouter quelque chose à ces questions, Bien sûr, dit Parna, je serai brève. Je ne pense pas qu'il doive y avoir un cadre général, global, mais toutes les politiques ou l'exécution, toutes les activités d'exécution doivent adhérer au processus que j'ai souligné. Merci. James, je ne pense pas qu'il devrait y avoir un cadre général global, mais James Bladel, mais c'est dans l'esprit de notre nouvelle approche flexible. Une fois qu'une politique est établie, cela transitionne en mode exécution. Les différentes équipes, telle a été l'expérience avec le PDP récemment, les équipes feraient des recommandations au personnel et les aideraient à les exécuter. Ça garde les choses rapides, simples, et vous avez le meilleur des deux mondes, comme on le disait, que l'exécution de politique était plutôt... que l'établissement de politique était plutôt très lent, alors que l'exécution un peu plus rapide. Donc cela optimise les deux. Merci, dit Bruce Duncan. Brian Winterfeld, ça n'a pas besoin d'être la même chose pour tous les SO, surtout vu les différences fondamentales entre SO, mais je suis d'accord avec certaines choses que nous avons discutées. On veut équilibrer l'exécution et s'assurer que nous consultons non seulement les SO, mais également les communautés. La communauté également. Evan, si vous acceptez l'idée que l'exécution doit respecter l'intention des politiques, alors ça veut dire que les preneurs de décision doivent avoir un mot à dire dans le processus. Nous avons vu du travail, de très bon travail entre les groupes d'experts, entre certains, des choses, des prises de décision que Fadi essaie d'introduire. Et j'espère qu'on pourra peaufiner encore davantage. Merci. Don? Une réponse rapide. Je dirais que ce serait bien. Ce serait peut-être pas un cadre global serait sympa, et c'est pas pratique vu la différence de réalité entre SO. Chaque personne a des problèmes particuliers et ça varie trop. Merci, Chuck. Je dirais les deux à la fois, si c'est possible. Donc, je me répète ici, créer un cadre général global pour tous les SO et AC pourrait constituer un défi. La première étape qui doit être d'établir un cadre de travail pour les SO spécifiques qui traite les paramètres auxquels le SO est confronté. Comme vous avez vu dans les commentaires publics qui a été soumis, et des rares exemples dans la vie réelle, c'est un gros problème pour le jeune SO et il devra gérer cela et commencer par en développer un cadre de travail qu'il pourrait utiliser partiellement par d'autres SO et AC. Avery? Merci, je pense que un cadre global peut être mis en œuvre. Je pense que la nature de la politique et de l'exécution demeure la même pour l'ensemble des SO et SA en majorité. Les questions sont différentes, les caractères, les protagonistes sont différents, mais les rapports entre ces deux. Et je pense qu'on doit vraiment avoir une chose générale pour pouvoir comprendre et pas... Pour chaque chose que nous faisons, trouver qu'on a une série de conditions différentes. Donc, j'aimerais un cadre global pour moi, en ce qui me concerne. Steve, le cadre global pourrait fonctionner pour la définition dans la zone grise et entre politique et exécution. Mais si on traite ensuite l'autre volet, qui est comment cela être mise en œuvre, alors on referait la politique. On ne peut pas le faire avec un seul cadre. Je vais expliquer pourquoi en trois raisons. Il y a trop de diversité entre les politiques parce que les groupes de travail font le détail de politique en termes de leur politique et ils peuvent gérer des demandes par de clarification sur le putback et le lookback, mais certaines politiques commencent à un haut niveau. Je vais vous donner un exemple. GAC, leurs principes en très haut niveau et cela n'a pas prouvé être productif pour nous, pour revenir au GAC et leur demander de clarifier un principe de très haut niveau. Lorsque vous faites un go back ou un put back à ce groupe, c'est une opportunité en autre pour ceux qui ne sont pas qui était contre pour refaire la politique. Troisième raison, penser à des situations dans lesquelles le board et le GAC ont pris un rôle de haut vers le bas sur la première politique. Un exemple que Chop a soulevé, c'est les Olympiques et la Croix-Rouge. Si vous demandez aux sous-agents pour le conseil de politique une exécution du haut vers le bas, une décision du haut vers le bas, vous mettez du sel sur la plaie. Mais lorsque vous, comme Afa a dit lundi, permettons et évoluons, mais cela, ça va évoluer également, ça va devoir vous évoluer dans les différents SO. Donc l'évolution se produit différemment dans différentes parties du monde. Bruce Tonkin, merci Steve. Prochaine question. Je vais commencer avec Evan et continuer par là. Evan, peut-être que je suis la mauvaise personne pour commencer parce que la question est un peu absurde. L'idée de forcer un engagement de l'ensemble de la communauté avec ICANN me semble une question stupide. Pourquoi est-ce que cela devrait être forcé? On penserait que l'engagement à travers la communauté devrait être une chose naturelle. Et cela revient à dire qu'il y a une opinion générale dans At Large et ailleurs, c'est que la culture des compartiments est quelque chose qu'il faut aborder. C'est culturel. Cela doit être retiré, éliminé. Et c'est une partie fondamentale du problème pour expliquer pourquoi c'est si difficile d'introduire le GAC plutôt dans le processus. Est-ce que pour vraiment engager un niveau plus large de la communauté qui va au-delà, disons, du SO qui attaque la politique. Je pense que cela doit être attaqué de front. Je pense que c'est important, c'est crucial. Le concept de dire que vous devez forcer la communauté, l'engagement communautaire me montre que le problème est dans la question. Bruce Tonkin, merci Elvin. Je vais à Don. Ensuite, il y aura un autre comité consultatif et qui se rapporte à cet avis. Agile? Oui, Don Blumenthal. Donc je réitère ce qui a été dit jusqu'à certaines parties. Les processus entre plusieurs groupes sont bien lorsqu'ils fonctionnent bien, mais j'ai vu des fois des résultats. Il n'y a aucun de résultat et le processus était laid. Je ne pense pas qu'on puisse forcer des activités entre l'ensemble de la communauté. Mais ça peut marcher parfois. Le SAC est un bon exemple où nous n'avons pas de représentants spécifiques des SO ou des CC, mais nous avons des gens qui proviennent de tous les groupes. Par rapport à la culture des compartiments, des silos, il faudrait vraiment l'éliminer et trouver un groupe. Peut-être que le groupe CU serait une bonne approche pour essayer d'obtenir des représentants pour qu'ils voient une manière de faire un travail communautaire de l'ensemble de la communauté, mais c'est pas pratique. Merci, Chuck. Je serais d'accord également avec Evan. Je suis sûre qu'on ne peut pas le forcer si les gens ne veulent pas coopérer, ils ne vont pas le faire. Mais ce n'est pas forcément naturel. Je ne pense pas que cela sera naturel. S'il n'y a pas de besoin ou d'intérêt dans un SO ou assez en particulier, il n'y aura pas de participation significative. Et il faut le reconnaître et l'accepter. Les registres pensent que les mécanismes devraient être établis et il nous aiderait dans ce domaine et on devrait analyser les alternatives pour cela. Mais je voudrais dire quelque chose à propos des compartiments, des silos. On ne pourra pas les éliminer, il me semble. On les a et on veut que les différents groupes participent, mais ce qu'on doit faire, c'est de voir comment on travaille ensemble, malgré nos silos. Merci, Chuck.
Avery.
Je pense que ce n'est pas si difficile que ça. Je pense que, premièrement, l'un des processus SO, lorsque nous suivons notre propre processus et nous ne tenons pas de consensus, nous donnons une série de conseils au board pour dire prenez une décision et on donne nos meilleures opinions et c'est à vous, à travers vos processus, de résoudre, de trancher avec les AC. Dans les cas où on a des recommandations contraires, nous devons examiner comment rapprocher ces parties et être médiateur pour aplanir les difficultés, ce qui est contraire. Donc, c'est pour ça que vous nous payez. On va prendre cette décision. Donc, je ne pense pas que les activités à travers la communauté, ce n'est pas quelque chose d'un objectif forcément, mais forcé, je suis d'accord avec les silos. Les silos sont naturels, mais on voit de plus en plus de manières de jeter des ponts sur ces silos. Donc, mettre un pont sur les silos, je pense qu'il y a des manières de le faire, mais éliminer les silos, je ne pense pas que ça va arriver de notre vivant. Steve, les questions sur le consensus. On devrait peut-être citer la grande Margaret Thatcher. Le consensus me semble être le processus d'abandonner tous les principes, valeurs et politiques. Personne ne croit à quelque chose dans lequel personne n'objecte, qui n'a aucune objection. C'est dommage que Margaret Thatcher n'est plus vivante parce qu'on l'aurait mis dans beaucoup de groupes de travail de Mackie O'Connor et je pense qu'elle serait morte plus heureuse. N'est-ce pas, Mackie, professeur du consensus? Il n'y a aucune surprise par rapport aux difficultés que nous avons. Vous devriez vous attendre à beaucoup de divergences au niveau des conseils dans le processus, sur le processus des fins définit le milieu. Il y a le Parlement européen a un processus de conciliation qui pourrait aider ici, mais j'ai lu le processus. Vous mettez un nombre égal de délégations des parlements européens plus les membres des États membres. Ils se rencontrent pendant 6 semaines. S'ils ne peuvent pas adopter la loi, la proposition de loi, on l'élimine. Donc, il n'y a pas de force, on n'impose rien. Donc, mais il y a quand même une pression et cela vient de la pression des gouvernements et des forces de maintien de l'ordre et cela fait la différence. Les registraires, les registres peuvent sentir la carotte du TLD et cela les rend plus disposés à des conciliations de dernière minute. J'étais impressionné d'une politique consensus au sein du changement. Cela me semblait aller très bien. Je ne me rappelle pas de beaucoup de pression du haut vers le bas derrière cela. Donc essayons de retrouver cette magie. Donc, Bruce Tonkin, merci Steve. Je suis heureux que vous avez aimé ce pudding. Merci Di. Parna, une solution pratique. Il y a des questions qui deviennent difficiles sans solution. Une chose que nous devons faire, c'est pour surmonter ces obstacles, ces goulots, c'est de déléguer le problème de la médiation, un expert. Vous savez, vous amenez dans une salle un professionnel dont le but dans la vie, c'est de prendre des parties et trouver le milieu et les pousser sur leurs compétences et ce qu'ils savent moins que les autres. Et donc, utiliser des outils qui existent dans le monde réel pour trouver des solutions pratiques. Merci, dit Bruce Duncan. James, je vais être un extrémiste alors. Peut-être en tout cas une voix dissidente. Et pour revenir à ce qu'a dit Evan et Don, si on ne peut pas avoir un consensus ou bien un conflit dans les opinions, des opinions conflictuelles, alors, ce n'est pas forcément une approbation, mais le status quo n'est pas assez douloureux pour pousser à arriver à un changement de politique. Et il y a un seuil que nous devons franchir pour que l'industrie ou cette organisation de faire des changements matériels et importants. Et on n'a pas atteint ce seuil. Pour revenir à ce que Parna a dit, les experts sont ici, ils sont dans cette pièce. Ils sont au sein de cette communauté. C'est pour ça que nous faisons cela et que nous prenons les avions, nous venons dans ces beaux hôtels. C'est pour parler de ces choses. Et si on ne peut pas se mettre d'accord, je ne crois pas qu'on devrait forcer un groupe de travail pour l'ensemble des communautés. Ce n'est pas forcément le moment pour que quelqu'un un externe arbitre cela. Selon notre modèle, cela n'a pas passé le test. Peut-être, c'est peut-être forcément encore un problème. Il faut peut-être le résoudre ailleurs, en sorte de d'ICANN. Mais je pense qu'on reste fidèle au principe que nous devons nous mettre d'accord pour continuer. Alors, on peut retourner. Si on ne peut pas, on devrait revenir au modèle européen. Et à ce moment, on laisserait tomber. Et merci, James. Brian, à vous. Brian Winterfell, merci. Je veux dire que la suggestion de Aparna est intéressante et bonne et serait utile. Je ne veux pas être tout à fait contre ce qu'a dit James, mais je pense que ce n'est pas parce que nous sommes dans une impasse avec un groupe de travail ou bien avec un SO. Cela ne veut pas dire que quelqu'un qui a de meilleures compétences pour aider à résoudre les conflits pourrait nous amener à un endroit plus serein. Et je pense que le dysfonctionnement est parfois quand on arrive à une impasse. On peut peut-être arriver à une autre une phase avec de meilleurs outils et processus qui existent maintenant parce que nous ne sommes pas médiateurs, nous ne sommes pas formés sur la manière de résoudre les conflits dans un contexte de politique. Donc, d'une perspective IPC, je pense vraiment que les différents SO et AC viennent à la table avec leurs propres compétences clés et ils ont comme un rôle d'équilibre des pouvoirs. Et pour le GAC, pour le GNSO, certains exemples, ils utilisent leur poids, tout leur poids pour certaines questions. Dans certains cas, le GAC pourrait dire que si on regarde l'interprétation et l'exécution de législation internationale, il devrait y avoir le dernier mot. C'est leur espace ou bien leur domaine. Donc, je pense que ce serait très valable, peut-être, d'avoir des mécanismes en place pour initier des résolutions sur l'ensemble de communautés où le Conseil et le GNSO sentiraient que le GAC viole leur territoire ou vice-versa. Je pense que dans un monde idéal, la communauté se collaborerait et ne serait pas en compartiment. Mais en réalité, on voit que les SO et AC sont structurés différemment et ont des vues et des perspectives différentes sur leur rôle et comment leurs conseils devraient être pris par le board. Donc, je pense que le fait d'avoir des procédures en place pour faciliter les résolutions où il y a peut-être quand il y a un conflit perçu ou une violation des droits d'autrui, cela pourrait être utile. Prochaine question. Question numéro 4, je vais commencer avec Chuck. Dit Bruce Duncan. Les registres pensent que les SO, avec l'engagement des SAC, devrait prendre, faire le premier pas pour aborder cette question et aborder le GNSO, parce que nous faisons partie du GNSO. Donc, il devrait y avoir beaucoup de motivation, parce que le GNSO, c'est là qu'il y a un problème brûlant. Le cadre GNSO devrait former son propre groupe de travail pour prendre ce cadre et commencer à le développer. Et ensuite, dans la mesure où d'autres SO voient également ceci comme une question pertinente pour eux, cela serait une bonne opportunité d'investiguer cela. Et si ils sont, alors ils le prennent au niveau pour l'ensemble de la communauté avec ceux qui sont intéressés. Avri, je pense que nous devrions prendre le cadre de travail que le personnel a mis sur la table et on devrait créer un groupe de travail sur l'ensemble de la communauté pour voir jusqu'à quel point cela pourrait continuer à être développé et amené à ce cadre global, de travail global. Et à partir de là, chaque SO et AC qui participent dans ce groupe peuvent contribuer et découvrir où il existe la différence et où ils ont des besoins de modules, de modes pour traiter les choses. On pourrait discuter davantage.
Steve DiBianco, il y a une opportunité d'appliquer certaines des idées qui sont déjà en place. Et nous allons avoir un cas de test sur, par exemple, avec le groupe des marques. Ils vont avoir un contrat modifié qui sera mis en place. On va voir comment on va appliquer ces méthodes. Est-ce que ce sera l'application d'une politique déjà actuelle ou une nouvelle politique? Disons que le GAC revient avec un avis sur de nouvelles prises de nouvelles sauvegardes, nouvelles prises de sécurité. Nous allons voir si c'est quelque chose que nous avons déjà utilisé, comme un code de conduite, par exemple. Est-ce que nous pourrons prendre de meilleurs pas vers une application de politique? Donc, une troisième chose, c'est singulier ou pluriel. Un ensemble de contentions singulier et pluriel. Je veux dire qu'il y aurait un désaccord, que la conclusion de l'application n'est pas satisfaisante. Donc, il n'y aurait rien. C'est une façon de réapplication d'une politique qui était déjà en place. C'est très confus. Si ce cas-là devrait se reposer, il faudrait voir si on pourrait les tester avant. Bruce, comme vous l'avez dit, ce qu'on devrait faire, surtout dans les groupes de travail, c'est développer des normes de travail pour savoir qui pose la question du côté application des politiques, qui travaille dessus. Et je ne pense pas qu'il faudrait qu'on ait une seule recette. L'ordre de travail devrait y avoir des différences entre le GAC, la LAC, le CCNSO et le GNSO. Bruce Tompkins, merci Steve. Aparna, je suis agnostique sur ce sujet, sur l'étape la plus appropriée à prendre. Ce qui est clair, c'est qu'il y a de l'intérêt pour voir si on va continuer avec telle ou telle manière du moment que l'on continue à enquêter sur tel ou tel problème. James Bladel, je pense qu'on a besoin d'un groupe de travail d'experts, de communautés croisées. Je savais que si je vous disais ça, vous allez commencer à rire. Nous devons continuer, nous devons penser au modèle agile qui a été mentionné. Où cela se passe-t-il au niveau des SO, des AC? Il faut voir où la politique est née, d'où elle vient, quel genre de problème le personnel a-t-il, et aussi voir quelles sont les inquiétudes et les poser aux experts régionaux. J'espère que nous avons une bonne audience ici, bon public. J'espère qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait se contracter sur la question et nous donner des informations de suivi lors de notre session questions-réponses qui va suivre. Merci. Je serais donc curieux de savoir ce qui va se passer. Bruce Duncan. Oui, Brian. Brian Winterfeld. Oui, je pense que c'est un groupe de travail pour explorer ces problèmes, voir ces différents SO et AC pour essayer d'identifier où sont les défis, identifier les différentes structures, voir comment elles sont mises en place, chercher les manières de les adresser, ces problèmes, voir comment le suivi pourrait être fait, les informations pourraient être demandées de la part de la communauté un peu plus tôt pour faciliter une façon de travailler ensemble. Je pense que ce serait un bénéfice. Je pense qu'il faut qu'on aille essayer de trouver des manières de faire face aux problèmes pour voir comment les AC et les SO se sentent. Je pense que ce serait très valable pour faciliter une façon constructive d'ajuster, d'adresser le dialogue au lieu qu'il y ait toutes ces frustrations des deux côtés, cette frustration qui se construit souvent des deux côtés, encore une fois. Ce n'est pas très productif. Evan Lebovitch, oui, je suis d'accord avec Steve. Je voudrais noter ici que nous avons deux ou trois exemples. Nous savons qu'une taille, ça ne marche pas pour tout le monde. Avec les SIA, par exemple, les STI, nous avons eu des bons résultats. Nous avons des groupes de travail de communautés croisées qui ont aussi bien fonctionné pour les supports aux candidats, par exemple. Il y a aussi, nous avons des exemplaires, des modèles qui marchent. Je suis d'accord que le groupe de travail les adresse. Sachez que nous avons quand même eu quelques succès auparavant avec ce modèle. Donc, je vous encourage à continuer. Merci, Evan. Dibou Stankin. Maintenant, Don Blumenthal. La meilleure étape, première étape, ce serait d'utiliser ce temps de travail et d'avoir un groupe de travail à travers les communautés pour faire une examination à haut niveau. Et cette examination elle-même demanderait très grands engagements des SO et des AC pour qu'ils puissent montrer leurs différents problèmes, leurs différentes approches. Il pourrait y avoir de grandes de lignes directives, disons, sur le comment et quand. En plus, on pourrait voir où il y a des similarités et des différences. Et ensuite, où les groupes croisés sont visibles ou s'ils n'en valent pas la peine. Merci, dit Bruce Tompkins. Ça nous amène à la fin de la question et pour les panélistes. Donc, je voudrais ramener la parole vers l'audience. Il y a des commentaires ou des questions pour certains des panélistes. Nous allons commencer avec Michaela. Michaela, un séjour, je sais que vous allez dire mon nom de la bonne manière. Je suis Michael Neyland. C'est un sujet que beaucoup d'entre nous, qui inquiète beaucoup d'entre nous. Cette inquiétude n'est pas nouvelle. La question que nous devons poser vraiment, c'est dans le cas de dire qu'on doit avoir un autre groupe de travail. Il y a encore beaucoup de mécanismes qui existent déjà. Est-ce que ces mécanismes qui existent peuvent être utilisés? À quel point dans le processus de prendre un concept, une politique, ou quoi que ce soit, quand est-ce qu'on doit faire la vérification pour voir est-ce que ça a été vérifié, est-ce que c'est seulement de l'application ou est-ce que c'est de la politique? Une politique, ce sont les inquiétudes qui ont été soulevées par beaucoup d'entre nous ces mois derniers. On a l'impression que quelqu'un plus haut placé a décidé que ceci n'était pas politique, c'était l'application de la politique. Certains d'entre nous sont en désaccord. Quel genre de vérification pouvez-vous faire? Est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de le faire, de dire oui, non, ça correspond à ça ou à ça? Est-ce que ça peut être ramené sur la table? Est-ce que c'est pas encore ces groupes de travail d'espace à trop lent? Et puis peut-être parce que c'est si lent, c'est parce que vous voulez faire les choses de la bonne manière. Je n'ai pas vraiment de suggestion, mais c'est pour moi c'est une inquiétude. Si on continue à construire des heures de travail, ça ne vaut pas la peine si on n'a pas de point de vérification en place. Bruce Tonkin, Chuck et Steve voudraient répondre. Chuck Gums, je voudrais mettre à défi l'assumption que nous avons plusieurs personnes sur le panel et maintenant avec Michaela, ces assumptions qui assument que si nous mettons les choses, le processus de développement qui prenait un an et demi, nous travaillons encore sur son application, 5 ou 6 ans après. Donc, ça ne suit pas nécessairement. Cela dépend comment les directions de l'application sont fournies dans la politique elle-même. Ce n'est pas forcément raisonnable avec le nouveau GTLD. Et moi, je dis, à quel moment vous faites votre vérification, dit Steve Bianco. Michael demande, quand est-ce que vous faites les vérifications? Il y a un groupe qui fait ses propres politiques et ses propres applications. On voudrait aller plus profondément dans l'application. Ces gens-là pourraient faire la vérification. Pour eux, c'est toujours le même processus de multipartite ascendant. Mais Michael est parle de l'application des politiques. Et si le personnel fait cela, fait sa propre interprétation de la politique, ou si cela fait, c'est une initiative qui part du haut, du GAC ou des avis du GAC ou du board, qui dit de mettre en place, c'est là qu'il pourrait y avoir la vérification. Je pense que c'est il faudrait que donc il y ait un moment dans le processus où il y ait une vérification. Jonathan Zach de l'Association des technologies compétitives. Je vais vous choquer, mais je vais être au contraire ici. La première intervention que j'avais faite à une réunion à Cannes, c'était comparer l'encre contre le crayon de bois. Donc, vous voyez, rien n'est absolu, mais c'est plus au sujet de l'exécution que les informations de plusieurs personnes qui viennent, qui discutent de choses. L'exécution est là où il y a une faiblesse dans l'organisation. Je vois d'autres exemples où nous avons fait une distinction entre les politiques et ses applications. Si vous regardez aux États-Unis, on a un système de 3 chambres avec la législation, le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Le personnel ici est un peu comme l'exécutif et le board et le judiciaire. Quand les lois sont passées aux États-Unis, il y a un petit peu de description. Puis après, le FTC rend les choses comme si c'était un annuaire téléphonique avec tous les détails, les informations, et ainsi de suite. Et les tribunaux un peu coupèrent tout cela à la jurisprudence en général pour voir si ça correspond à l'intérêt public et ainsi de suite. C'est un peu comme le contexte de ICANN. Je voudrais faire une suggestion plus difficile. Nous devrions diviser tout cela et laisser la branche législative, disons, de ICANN définir les politiques pour qu'ils aient des informations, qu'ils puissent avoir qu'ils puissent faire quelque chose au niveau de la population, qu'ils fassent partie du processus et ensuite donner cela au personnel pour que l'application de cette politique soit faite. Et peut-être des fois on sera heureux avec le résultat, peut-être moins heureux avec le résultat, mais il y aura au moins un résultat. Et ce sera un système qui nous apprendra à travailler. Et si on n'a pas assez de résultats, vous ferez la chose différemment la prochaine fois. Et c'est un progrès qui ira de l'avance sur ce qu'on essaie d'accomplir dans l'organisation. Et ça aidera une vraie organisation. Et pas on arrêtera de parler sans arrêt. Et on a l'impression que c'est ça le symptôme de cette organisation, c'est toujours en parler. Et tout cela aurait un effet dramatique sur comment les politiques sont mises en place. Bruce Tonkin, merci. Jonathan, Steve veut faire un commentaire. Steve DeBianco citait que la façon dont le gouvernement américain travaille, vous saviez déjà que ça aurait causé un problème. Je ne vais peut-être pas, je vais pas pouvoir seulement dire que c'est le meilleur endroit où on peut commencer. L'analogie n'a peut-être pas fonctionné comme vous le vouliez. La branche exécutive, quand ils mettent applique, ils font cela en publiant pour commentaires de public. Ils font beaucoup de publications. Il y a toujours des opportunités de faire des commentaires. Et puis ensuite, si ça ne va pas, tout le monde va au tribunal et fait des procès. Ça peut être autant bordélique, disons, que ce dont on essaie de discuter aujourd'hui. Mais c'est peut-être quelque chose qu'on devrait peut-être en apprendre, justement, de ce modèle, si ça va être la vraie réponse. Don Blumenthal, je dois répondre. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je ne pense pas que cette analogie fonctionne. Le système aux États-Unis, le gouvernement aux États-Unis n'est pas si clair que ça. Je ne pense pas que au sein de la CAN, il serait possible de faire cette distinction particulière. Et prendre une décision, la donner au personnel, il y aura toujours une espèce d'effet croisé. Pour être honnête, je pense que cela ne prend pas en compte la contribution significative que le personnel fait dans les étapes du départ, dans le processus de la politique. Ivan Lebovitch, merci. Je voudrais juste ajouter une autre aiguille, disons un autre point difficile. Regardez l'état de séquestration d'ailleurs et ainsi de suite aux États-Unis. La législature n'est pas un modèle que l'on pourrait utiliser comme exemple avec ce qui se passe en ce moment. Peut-être le meilleur exemple à vous donner serait l'exemple canadien. Aparna dit, non, je veux dire qu'il y a des choses qui sont utiles dans le processus, pas que l'on devrait utiliser une structure tripartite comme aux États-Unis. Il y a des tas d'évidentes que c'est une recette qui ne marche pas forcément bien. Avery, je pense que si nous voulons que tous nos processus arrivent au tribunal, dans un procès, ce serait peut-être une bonne solution. Je noterai que je ne voudrais pas penser que le board, que nous sommes dans le... Je ne dirais pas que le board est un modèle juridique. We have des processus de dispute, de résolution de litiges. Mikey O'Connor, je suis un membre des ISP, mais nous avons quelques problèmes avec cela. Nous sommes un peu confus. Je suis un peu confus. Donc, ce sont des commentaires personnels. J'ai pris le dessin de Marika. Je trouvais qu'il était bon. Je l'ai dessiné. D'ailleurs, je pensais qu'il manquait un morceau dans ce dessin. Il y avait plein de critères, ce qui est politique, conformité, ainsi de suite. Ensuite, à l'extérieur de cette décision, ça va être difficile à expliquer. Il y avait des chemins qui sortaient de cela. Ah, et voilà, voyez le dessin sur la diapo. Et ce que j'ai inséré là-dedans, c'est qu'il y a cet arbre de décision. J'adore l'idée d'un groupe de travail. Alors, on va faire un groupe de travail pour figurer un peu ce qui va se passer au niveau de la décision. Et puis, en descendant de l'arbre, à droite, il y a les conformités, les politiques, le modèle différents degrés de cela, le modèle de Marika. Et là, si quelqu'un fait une vérification de réalité, directions qui ont été prises avant que les choses en descendent, et puis je me suis dit, j'avais beaucoup de problèmes à voir quel est le corps de révision et comment est-ce qu'on évite d'être en désaccord, peu importe qui on choisit. Quoi que soit notre choix, cette conversation, c'est vraiment pratique. Je voudrais mettre dans la horreur du pudding. Je vais changer le pudding en soupe, parce que moi, le pudding, je n'aime pas ça. Une des choses qu'on en tire, c'est cette notion de retourner vers les gens qui ont fait les politiques quand on est coincé. Moi, j'aime bien l'idée de Jonathan. Je pense que c'est une bonne idée. Quand vous faites une politique, vous mettez votre énergie dans l'application, dans les directives de l'application, quand on le fait, lorsqu'on le fait. C'est bon quand c'est frais, c'est bon quand nous savons vraiment, connaissons les nuances de ce qui se passe. C'est difficile de revenir après 6 mois, 8 mois. D'y retourner. Donc, l'idée de Jonathan, c'est un amendement amical. C'est une bonne addition. Je pense que c'est très plus facile d'imaginer du travail à travers la communauté avec les silos croisés dans les groupes de travail. Les groupes de travail correspondent mieux à ce genre de travail. Donc, j'aime l'observation d'Avry. Ce serait bien d'avoir au moins un ordre de travail qui serait similaire. Je suis d'accord avec Chuck, il y a une valeur dans les silos. Mais jusqu'au point où on pourrait travailler sur une communalité du processus, ça pourrait aider les gens qui sont dans le processus pour qu'ils aillent d'un silo à l'autre, pour qu'ils pourraient trouver des méthodologies familières d'un endroit à l'autre. Donc, au moins, essayer dans ce sens-là. J'aime beaucoup votre idée de médiateur professionnel. Ce que cela veut dire pour moi... Les gens dans le processus de groupe de travail, moi je suis des fois à la tête du groupe de travail, des fois je suis participant. Le groupe VI, celui qui pose des problèmes à tout le monde, pour nous, notre problème c'était que nous, les co-chairs, Roberto Gaetano et moi, co-président de ce groupe, co-directeur de ce groupe, on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. Et on a eu des problèmes au milieu du processus. Si on avait eu de l'assistance expert, je ne sais pas si on avait besoin d'un médiateur, mais on avait besoin un peu d'aide, nous aurions pu éviter les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Donc voilà, je ferai ça comme idée. Et ensuite, bien sûr, je suis en faveur d'un groupe de travail comme la prochaine bonne chose dans le processus. Boston Kings dit merci, Mikey. Je pense qu'il nous reste à peu près 7 minutes. Je voudrais quand même que tout le monde ait la chance de faire des commentaires, mais la file au micro doit s'arrêter bientôt. Oui, je suis membre du IPC. Je m'appelle Mark Partridge. Je travaille beaucoup avec les processus de médiation pour les litiges. Je voudrais soutenir cette suggestion que ce processus, à un certain niveau, doit ajouter un professionnel, quelqu'un de neutre qui pourrait aider à faciliter les différents points de vue. Ce qui a tendance à se passer, c'est que les impasses augmentent et les positions deviennent de plus en plus difficiles et on arrive à un point négatif, on n'avance pas. On est à l'impasse, on n'a pas de solution. Donc, quelqu'un qui pourrait faciliter, quelqu'un qui est formé, pourrait aider les partis à dépasser ces positions et se concentrer quels sont les vrais intérêts auxquels ils font face et de trouver des solutions qui seraient plus rapides au lieu que toutes ces choses continuent à passer à travers les processus. Je souhaiterais que cela serait considéré en tant que partie du processus. Bertrand de la Chapelle, au bord de Daikan. Je parle de personnellement, d'ailleurs, mon point de vue personnel. Un des dangers de ce débat devient un proxy pour le débat sur les rôles respectifs de la communauté et du personnel. Et il faut qu'on transforme cela dans une réalité. Il faut parler du travail, du travail qui sort des politiques vers l'application. Ce que Jonathan disait, il y avait une mauvaise interprétation après. Il n'argumentait pas pour sur les relations, l'heure de travail des États-Unis. Il parlait de deux fonctions différentes et il parlait du législatif et de l'exécutif. Ça n'a rien à voir avec un pays spécifique. Et pour ajouter un peu de diversité, cette question de distinction entre le côté législatif, la responsabilité législative et le rôle de l'administration est très différente dans beaucoup de pays. Surtout, par exemple, en Angleterre et en France, le débat est très différent. La ligne de division existe et c'est dans le cas, par exemple, de la France, il y a une discussion qui migre. Il y a les frontières de migration qui changent sans arrêt. Faire une ligne de division est un objectif élusif et ça ne devrait pas être considéré. Mais il faudrait considérer comment les ciseaux des responsabilités évoluent. Parce que, par exemple, au GNSO, au départ, c'est souvent à travers le processus de GNSO PDP que ceci est développé. Et ensuite, le personnel travaille là-dessus. Et quand cela passe au-delà, et c'est la mise en application par le staff, il y a donc des responsabilités progressives. Il y a des vérifications, des tests sur le chemin. Est-ce qu'on voit la fermeture de l'ordre de travail de la politique ou est-ce qu'on doit faire en place, mettre quelque chose en place pour pouvoir revenir, pour voir des clarifications? Par exemple, le programme du nouveau GDLD, le plus grand défi que nous pensions que les politiques étaient terminées. Mais en réalité, ce n'était pas vrai parce que ce qui se passait, ce qui allait arriver après, c'était le guide et c'était l'ordre de travail de mise en place. Le nouveau programme de GTLD, ce n'était pas une politique, c'était une version préliminaire d'un régime et il n'y a pas de dimension entre le programme des nouveaux GTLD et les sous-politiques et tout le monde a ses décisions, processus de décision de politique. Par exemple, la période de grâce qui est très difficile. Bon, c'est facile. Nous avons besoin de penser que lorsque nous parlons de régime d'un plus grand niveau, il y a beaucoup de va-et-vient. Enfin, un des problèmes dans le modèle actuel, c'est une des questions, c'est le comité conseil dans le modèle courant, surtout pour le GAC, donne son avis à la fin de certains des processus. Et c'est difficile d'intégrer cela plus de bonheur dans le processus. Je voudrais dire que sur une des questions, il y a une grosse différence entre ce qui doit être fait quand il y a des avis contraires, compétitifs, ou quand il n'y a pas de consensus. Ce n'est pas le même objectif. Pas de consensus dans le PDP, c'est peut-être une situation où le status quo ne serait pas améliorable, disons. Mais des conseils compétitifs nous aideraient parce qu'on serait donc confronté à des différentes étapes avec des positions de consensus très valides qui ne sont pas comptatives. Cela nous amène dans la question forcer ou ne pas forcer. Je crois que l'élément clé, c'est de prendre en compte que les processus de multipartite prennent plus longtemps et ils doivent commencer, et j'insiste, commencer sur le mot commencer, dans vraiment une communauté aussi large que possible, une discussion dans une communauté la plus large possible, même si c'est dans une structure elle-même ou dans un silo. Parce que le moment où vous rassemblez tous les acteurs, au départ, ils comprennent exactement quels sont leurs problèmes communs, au lieu de passer du temps à définir quelles sont leurs positions individuelles avant de se rassembler. Non, je voulais dire autre chose, mais je vais finaliser sur cela. Je commence à ne pas comprendre où est la tension entre un groupe communautaire croisée ou un groupe de travail GNSO, parce que j'ai entendu plusieurs fois ces derniers jours un commentaire qui dit « Oh, le groupe de travail du GNSO c'est complètement ouvert ». Alors, mettons cette question de côté. Faites un groupe, faites le GNSO et puis dites que c'est ouvert à tout le monde. Merci, Brett, avec les registres. Je vais être rapide parce que les choses dont je voulais parler ont été dites par le dernier speaker. Comme je vois quand je parle d'application ce qui se passait avant, c'est qu'une de ces réunions, les SO venaient et avaient des politiques, le personnel apportait cela pour durant la prochaine réunion, deux semaines après la réunion qui suivait, on voyait ce qui allait en sortir. Entre cela, ils essayaient de résoudre des problèmes difficiles, les SO n'avaient pas résolu. Donc, nous regardions le papier, que ça avait avancé de deux étapes et on réagissait dessus, puis ça revenait une étape en arrière. Ce n'était pas très productif. Ce que je vois maintenant avec Fadi, c'est qu'il apporte des consultations.